Amen. Béni soit le Seigneur. Voilà. Eh bien, je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 15. Nous lirons simplement le verset 2. Apocalypse 15, verset 2. Voilà ce que dit donc l'apôtre Jean dans sa vision divine. Et je vis comme une mer de verre, ou de cristal aussi, suivant les traductions, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de cristal ou de verre, ayant des harpes de Dieu. Je relis. Et je vis comme une mer de verre ou de cristal mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Amen. Amen. Vous avez là deux mentions de cette transparence du verre ou du cristal dans ce passage. Vous avez sept passages dans l'Apocalypse qui nous parlent de transparence. Hein ? Chapitre 4, verset 6, vous en avez deux ici. Et les quatre autres sont à la fin de l'Apocalypse, là où on parle le plus du ciel. Hein ? Vous retrouvez ça au chapitre 21, verset 11, verset 18, verset 21, chapitre 22, verset 1. Et vous avez donc là une grande insistance sur la transparence, la pureté, la limpidité, spécialement dans ce qui est céleste. Et ça, ça doit nous parler, parce que cette transparence, eh bien, c'est aussi un signe, l'image de la totale sincérité, de la vérité, de la transparence qui doivent être en nous si nous voulons un jour nous retrouver au ciel. C'est George MacDonald qui a écrit la chose suivante. « Non, il n'y a pas d'échappatoire. Le ciel ne contient pas le moindre vestige de l'enfer. Pas moyen de garder dans nos cœurs ou nos poches quelque chose qui appartienne au diable. Satan doit être chassé sans qu'il en reste un poil. » Voilà. Il disait ça. Hein. Et Lewis, donc, Christopher Lewis, disait donc « Vous ne pouvez pas emmener vos bagages avec vous dans tous vos déplacements. Il se peut que dans un certain voyage, votre main droite et votre œil droit eux-mêmes soient parmi les choses que vous devrez abandonner. » Ah oui, ça nous parle hein, dans ce voyage-là. Donc, revenons-en. Et dans cette transparence céleste qui est notre sujet d'aujourd'hui, par lequel nous avons bien des choses à voir, eh bien, il y a déjà bien évidemment une très forte condamnation du mensonge. Content d'avoir entendu le témoignage de notre sœur Marianne dans ce sens. Il est remarquable de constater que les trois passages qui condamnent le plus fortement le mensonge se trouvent justement tout près de passages où il est le plus question du ciel et de sa transparence. Dans la Bible, les passages qui condamnent le plus fortement le mensonge sont dans le chapitre 21 au verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Chapitre 21, verset 27, vous vous lisez encore. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et chapitre 22, verset 15 encore, là vous êtes vraiment tout à fait vers la fin. « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Il n'y a pas d'endroit où le mensonge est dénoncé avec autant de force dans toute la Bible, et si c'est tout à la fin de la Bible et de l'Apocalypse, c'est pour nous montrer combien c'est une question qui est importante pour Dieu. Il n'y a pas aussi d'endroit où il est autant question de cette transparence céleste. Parce que pour chacun de ces passages, vous avez dans sa proximité des versets qui parlent de la transparence. Pour chapitre 21, verset 8, c'est les versets 11 et 18. Chapitre 21, verset 27, c'est le verset 21. Chapitre 22, verset 15, eh bien, c'est le verset premier du chapitre 22. Donc, dans cette transparence céleste, vous avez en même temps un très fort attachement à la vérité. Et là aussi, on pourrait voir qu'il y a dimension de la vérité dans l'Apocalypse. Et justement, dans le chapitre 15, au verset 3, vous retrouvez la vérité tout près de notre texte de début, qui était au verset 2. Donc, « Tes voies sont justes et véritables roi des nations. Et vous retrouvez la même chose dans le chapitre 21, au verset 5 et au verset 11. Et je dirais que quelque part, c'est logique par rapport au point qu'on vient de voir. Des choses dont il est fait mention aussi, il est parlé de choses dont il est fait mention et qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être transparentes, sont transparentes dans le ciel. Hein ? Par exemple, le jaspe, dont il est question au chapitre 21, au verset 11, et au chapitre 21, au verset 18. Et là, vous voyez que le jaspe, habituellement, c'est une pierre qui est dure, c'est une pierre qui est opaque, qui est colorée en jaune, en rouge, en noir ou en brun, par de l'argile ou des hydrates de fer. Donc, voilà. Et puis, jaspé, vous savez, quand c'est jaspé, vous voyez c'est ce que ça fait. Mais en tout cas, ce n'est pas transparent. Ici-bas, ce n'est pas transparent. Mais dans le ciel, c'est transparent. L'or lui-même, hein, vous savez très bien que l'or n'est pas transparent ici-bas. Hein. Pourtant, chapitre 21, verset 18, chapitre 21, verset 21, bien, on voit qu'il sera rendu transparent et même d'une transparence admirable. Et même la mer, dont il est question aussi dans l'Apocalypse, hein, chapitre 4, verset 6, et ceux qui connaissent un petit peu la mer, ils savent que, bon, oui, c'est transparent comme ça, en surface. Hein, je veux dire, bon, elle peut être, après, lorsqu'on la regarde d'un peu plus loin, elle peut être verte ou grise, suivant le temps qu'il fait, mais en tout cas, dès qu'on s'y enfonce, on sait que ça s'assombrit, et puis qu'après, on arrive dans les ténèbres des abysses. Hein, donc, voilà. L'explication pour laquelle cette mer est là comme du verre, comme du cristal, comme on peut le dire, c'est parce qu'elle est mêlée de feu, comme il est dit là, dans ce passage. Et donc, c'est la lumière qui est alliée à la pureté qui lui donne cette transparence extraordinaire. Dans le ciel, ainsi voyons-nous que toutes choses sont rendues transparentes. Et celui qui vit dans la dissimulation, celui qui vit dans le mensonge, celui qui vit dans le soin de l'apparence, ben, il ne pourra pas supporter un lieu de cette sorte, une position de cette sorte, où tout est en fait révélé et rien n'est caché. Et pourquoi ? Ben parce qu'il n'y a rien à cacher. Hein ? Parce qu'il n'y a rien à cacher, parce que personne ne veut cacher quelque chose quand il est dans le ciel. Et pour aller au ciel, vous avez donc cette urgence absolue de bannir le mensonge, la tromperie, la dissimulation, l'hypocrisie et la séduction. Et comme notre sœur le disait fort justement dans son témoignage, il faut être délié par Jésus de cette puissance de mensonge qui est trop souvent dans notre vie. Et ça commence par quoi ? Ça commence déjà par arrêter de se mentir à soi-même. Ça commence par là. Le plus urgent, c'est ça. Et hélas, c'est ce qui est le plus habituellement et le plus communément fait. Les enfants à qui on enseigne à dire la vérité sont bénis. Hein, c'est vrai. Un adulte reconnaissant disait un jour, « Aujourd'hui, grâce à la façon dont on m'a élevé, je préfère mourir que de mentir. » Alors c'est vrai qu'il est important d'être honnête avec les autres, mais il y a un autre aspect qui est encore plus important, c'est d'être honnête avec soi-même. Hein. La plupart d'entre nous, eh bien, nous pouvons voir facilement les défauts des autres. Mais, quand il s'agit de nous-mêmes, hein, on a beaucoup plus de mal à avouer, à découvrir les nôtres. Hein. Un pasteur et auteur qui s'appelle Bob Smith a énuméré certains raisonnements qui nous trompent. Il dit, voilà, les autres ont des préjugés, mais moi j'ai des convictions. Les autres sont imbus d'eux-mêmes, mais dans mon cas, c'est le respect de soi. Quand vous soignez votre apparence personnelle, c'est de la vanité. Chez moi, c'est simplement mettre en valeur ce que Dieu m'a donné. Chez vous, c'est de la sensiblerie. Chez moi, c'est de la sensibilité. Chez vous, c'est de l'inquiétude. Chez moi, c'est de l'intérêt. Voyez-vous ? Tellement facile d'interpréter les choses différemment quand ça nous concerne, nous. Hein ? Et c'est pour ça que le fait d'arrêter de se mentir à soi-même, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et l'apôtre Jean nous dit bien que si nous disons une chose, mais que nous en pratiquons une autre, nous mentons. Hein ? C'est très clairement dit. Et nous nous séduisons nous-mêmes, est-il dit en plus au verset 8. Et nous faisons Dieu menteur. Et après avoir diagnostiqué notre malhonnêteté comme un péché, eh bien, l'apôtre Jean donne le remède, il dit, si nous le confessons et si nous le reconnaissons, alors c'est vrai, nous serons pardonnés, alors nous serons purifiés, alors nous serons délivrés, et la récompense glorieuse de cette purification, c'est de pouvoir marcher dans la lumière de Dieu. Amen. Amen. Après avoir cette première chose, nécessité de ne plus se mentir à soi-même, il faut arrêter de mentir aux autres. hein, évidemment. Hein, parce que ça a aussi toujours des conséquences dommageables. Combien de gens mentent si facilement, simplement pour être bien vu? Simplement pour ça. Hein, mais la réalité est différente. Hein, donc, ça, c'est quelque chose. Hein, on ressemble facilement aux pharisiens qui cherchaient leurs propres intérêts et qui se souciaient tellement de ce que les autres pouvaient penser d'eux. Et voilà, donc, mais malgré tout, la réalité, c'est qu'ils étaient remplis d'un but, donc, de motifs égoïstes qu'ils pouvaient avoir en eux-mêmes. Alors ici, l'histoire d'un juge qui utilisait des autocollants sur les pare-chocs pour encourager une meilleure conduite. Hein, donc, ça se passait aux États-Unis, je ne sais plus quel état. Alors, il donnait deux choix aux personnes qui étaient coupables de conduite en état d'ivresse. Alors, premier choix, c'était de coller le message suivant sur leur pare-chocs. Cette voiture appartient à un conducteur reconnu coupable de conduite en état d'ébriété. Ça, c'était le choix numéro un. Et puis le deuxième choix, c'était s'inscrire à un programme de lutte contre l'alcoolisme. Qu'est-ce que les gens choisissaient habituellement, à votre avis ? Évidemment, le deuxième. Évidemment, le deuxième. Hein ? La immense majorité choisissait le deuxième. Pourquoi ? Parce que les gens se souciaient de ce que les autres pensaient d'eux et ils voulaient sauver la face. Hein ? Et je dirais que la crainte de l'embarras s'applique aussi à d'autres sortes de comportements inacceptables. Ainsi, je pense, peu d'entre nous seraient prêts à marcher avec dans le dos une pancarte sur laquelle serait écrit quelque chose comme ça. « Danger, je suis un chrétien qui ne consacre pas beaucoup de temps à la prière ni à la méditation de la parole de Dieu. Hein ?» Ou bien, par exemple, on n'aimait pas emporter une pancarte en disant « Attention, je suis un enfant de Dieu qui se livre au commérage. Hein ?» Ou encore « Attention, je suis dominé par la convoitise plutôt que par l'amour. » On ne voudrait pas ça. Hein ? Si nous obligeait à porter une telle pancarte, eh bien, quel changement est-ce que ça produirait dans notre vie ? Quel changement est-ce que ça produirait dans nos comportements ? Est-ce que serait-il possible qu'il y ait dans notre cœur plus de crainte de ce que les autres pourraient penser de nous que ce que Dieu pense de nous en ce moment ? Ah, c'est une question, ça, vous savez, mes amis. C'est pour ça que l'Écriture nous parle et nous dit qu'il faut arrêter de mentir aux autres. Et puis, évidemment, et c'est encore plus totalement insensé, c'est de prétendre mentir à Dieu. Hein ? Ça aussi, c'est encore quelque chose d'insensé. C'est un homme qui a tué quelqu'un en 1971, et même s'il était le suspect numéro 1, personne n'a pu prouver qu'il était l'assassin. Alors, on a laissé tomber l'affaire et il s'en est tiré. Voilà. Est-ce qu'il s'en est vraiment tiré ? Ah. Parce que presque 3 décennies plus tard, alors qu'il était malade, qu'il était dans un foyer de personnes âgées, il a confessé son crime. Et le détective qui avait dirigé l'enquête, il y a 26 ans en arrière, a dit, il a regardé par-dessus son épaule durant les 26 dernières années, non seulement parce qu'il avait peur de se faire prendre, mais aussi parce qu'il craignait son créateur. Je crois qu'il veut se donner bonne conscience avant de rencontrer son créateur, ou du moins essayer de le faire. Bon, c'est pas si bête que ça comme démarche, malgré tout, hein, je trouve, hein, parce que ça veut dire que cet homme, il comprenait qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Hein, déjà, il comprenait ça. Alors, évidemment, nous ne connaissons pas les raisons plus profondes pour lesquelles cet homme a agi ainsi. Oui, il y avait probablement cette crainte de Dieu, mais est-ce qu'il a compté sur la grâce de Dieu ? Est-ce qu'il a reçu le pardon de Dieu par Jésus-Christ ? Est-ce qu'il est devenu une nouvelle créature par le Saint-Esprit ? Est-ce qu'il est véritablement né de nouveau ? Parce que c'est seulement ainsi qu'on pourra se tenir devant Dieu et être pleinement sauvé. Et ça, c'est évidemment valable pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Amen. Et puis, rappelons une chose, c'est que le mensonge empêche de se tenir devant Dieu. Le mensonge empêche de se tenir devant Dieu. Pour marcher sur cette mer extraordinaire dont il est question dans notre passage, pour s'y tenir et pour pouvoir être et demeurer devant Dieu, il ne faut rien de moins qu'un miracle, faramineux et un miracle continuel. Et ce miracle, eh bien évidemment, il se produira pour ceux qui sont là. En 1966, un saint homme hindouiste, peu connu, nommé Rao, a failli devenir une célébrité mondiale. Rao, donc, était un mystique, excentrique, cérémonieux. Il avait acquis la certitude qu'il pourrait marcher sur l'eau. Hein, voilà. Donc, il avait une telle confiance dans ses pouvoirs spirituels et surnaturels qu'il a annoncé qu'il allait accomplir cet exploit en public. Voilà. Et il a vendu des billets à 100 € la place. Donc, et l'élite de Bombay, donc la ville de Bombay, la capitale, est venue en grand nombre pour être témoin de cet événement. Et le spectacle se tint dans un immense jardin où il y avait au milieu une piscine, une belle piscine, et une piscine profonde. Et voici une foule de plus de 600 croyants et curieux qui s'est rassemblée. Et le yogi à barbe blanche est arrivé, portant une robe de cérémonie flottante. Il s'est avancé avec assurance vers le rebord de la piscine. Il s'est arrêté un instant pour prier silencieusement. Et un silence respectueux, bien sûr, tomba sur la foule. Alors Rao a ouvert les yeux, il les a tournés vers le ciel. Il s'est avancé avec hardiesse et dans un grand plouf embarrassant, il a disparu dans l'eau. Voilà. Alors, bredouillant, gêné, le saint homme sortit de l'eau avec peine, rouge de colère. Il menaça la foule silencieuse et embarrassée. « L'un d'entre vous !» s'exclame Rao avec indignation. « L'un d'entre vous est un incrédule !» L'un d'entre vous est un incrédule. C'est à cause de ça que ça n'a pas marché. Vous savez quelle différence avec le Seigneur Jésus, hein ? Quand il a marché sur l'eau dans la tempête, et heureusement, son miracle ne dépendait pas de la foi des disciples qui étaient terrorisés dans la barque, hein, comme spectateurs. Et voici que dans notre texte auquel nous revenons, donc, ces gens qui se tiennent devant Dieu, ils le font comment ? Ils le font par la foi. Hein ? Ils le font par la foi, ils le font dans la vérité. Ils le font dans la lumière, ils le font dans la transparence, ils le font dans l'amour de Christ, ils le font dans la reconnaissance, ils le font dans l'adoration, ils le font dans la louange. Et c'est ainsi que Dieu les soutient par ce miracle continuel et qu'ils sont dans une joie et dans une gloire indescriptible. Amen. Amen. Alors, il est indispensable de rejeter le mensonge et de s'attacher fermement à la vérité pour être sauvé par Christ. Il y a eu un auteur célèbre dont vous avez peut-être entendu parler, Henri de Montherlant, donc un homme qui a vécu au XXe siècle, et c'est un écrivain qui était considéré comme un des maîtres à penser de sa génération. Et voici ce que Charles de Gaulle en disait, ce que Charles de Gaulle disait de lui. « Il longe indéfiniment le bord de l'océan religieux, que son génie ne quitte ni des yeux ni de l'âme, sans y pénétrer jamais. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Quelques semaines avant de se donner la mort, parce que c'est, hélas, il s'est suicidé, cet homme-là, le célèbre auteur écrivait à un de ses amis, « Moi qui ne crois pas, je ne puis croire qu'à ceux qui croient, et cependant je ne puis comprendre qu'ils croient. » Celui qui a reçu ce dernier message a ajouté « L'océan a été là jusqu'au bout, fascinant et impénétrable pour lui. » C'est vrai, c'est bien triste. Cet homme, il a fait son choix, il a refusé Dieu, il avait rencontré des croyants, il avait pour eux une très grande estime, mais il ne pouvait pas comprendre qu'ils croient. Il était attiré par eux, mais il ne voulait pas les suivre. Alors, il serait vain d'essayer d'analyser les sentiments de cet homme. Et, hélas, l'issue de sa vie ne les a pas démentis. Mais peut-être parmi nos auditeurs d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui longe indéfiniment l'océan de la grâce de Dieu, hein, qui ne veut pas se laisser atteindre. Ah, il peut suivre les réunions, il peut fréquenter les chrétiens, il peut avoir une Bible à la maison. Il prie peut-être même quand il est dans la peine, mais il n'a jamais, jamais vraiment rencontré Dieu. Donc, il s'est toujours tenu à distance, sans trop s'éloigner, sans jamais s'approcher. Mais vous savez, ça, c'est un chemin de perdition. C'est un chemin de perdition, cela. Et ce chemin, il faut l'abandonner. Il faut venir à Jésus parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Parce que quand nous considérons ceux dont il est parlé dans notre passage, eh bien nous voyons qu'ils sont réellement venus à Jésus. Ils ont marché dans la vérité, dans la transparence, dans la lumière avec persistance et avec fidélité. Ils ont servi Christ de tout leur cœur. Ils ont combattu et lutté pour lui jusqu'à la mort. Les voilà qui chantent à la gloire de Dieu. Les voilà qui louent, qui adorent, qui proclament le Seigneur dans la pleine assurance de leur foi et dans une immense joie. Alléluia. Et ils sont donc dans ce miracle continuel et devant lui. Et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers le Seigneur aujourd'hui, sans tarder, d'une façon pleine et entière, par un rejet complet du péché, spécialement du mensonge, envers soi-même et envers les autres, et par un attachement tenace et profond à la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Hein. Quiconque est de la vérité, écoute sa voix. Amen. Alléluia. C'est important de faire ce choix. Et pour conclure, eh bien voici encore le témoignage. Pendant plusieurs années, un couple de Britanniques qui avait vécu en Afrique de l'Ouest s'était lié d'une grande amitié avec un homme de leur village et il lui avait souvent parlé de l'amour de Dieu, il lui avait parlé de Jésus, de l'histoire du salut. Et donc, cet ami, bien, il hésitait à renoncer à sa croyance qu'il avait eue pendant toute une vie. Hein, donc, d'autant plus que de s'attacher à l'autre religion, d'autant plus qu'il était un des chefs de cette religion dans cet endroit-là, et puis qu'il y avait de nombreux avantages. Et puis, il craignait d'être mal vu, hein, aussi, évidemment, s'il changeait. Et il reconnaissait cependant que la foi en Christ était ce qu'il appelait la vérité supérieure. Il disait, la foi en Christ, c'est la vérité supérieure. Mais voilà, donc, avec tristesse, il s'est expliqué de la façon suivante. Je suis comme un homme qui pêche à la main dans un ruisseau. J'ai attrapé un petit poisson, mais un plus gros passe à côté de moi. Pour attraper le plus gros, je dois laisser aller le plus petit. Eh oui, c'est vrai. Il y avait un choix à faire. Ça ressemble un petit peu au jeune homme riche, vous vous souvenez ? Dans Matthieu chapitre 19, lui aussi il avait un problème du même genre et il avait abordé Jésus de cette manière-là. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Hein, c'est dans le verset 16. Et il semblait sincère, mais il refusait de céder pleinement sa vie à Jésus. Il s'enorgueillissait d'être fidèle à la loi, or même s'il désirait la vie éternelle, eh bien il a malgré tout préféré autre chose et il a rejeté les paroles de Jésus. Et lorsque nous soumettons notre vie à Jésus, en acceptant son don du salut, il nous fait une invitation. L'invitation suivante, puis viens et suis-moi. Et la question qui se pose à certains ce soir encore, c'est quelles sont les choses que Jésus attend de ta part pour recevoir le salut et recevoir la promesse de la vie éternelle avec lui. Qu'est-ce qui vous empêche de vous abandonner pleinement à Jésus ? Voilà la grande question. Et c'est pour cela qu'il est tellement important de venir à lui maintenant, en lui confiant toutes choses, en abandonnant tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie, en faisant ce choix délibéré, décidé, et en lui demandant de nous sauver puissamment et d'agir dans nos vies. Amen, amen. Te remercions, notre Sauveur et notre Dieu, parce que tu es toujours le même, parce que tu ne changes pas, parce que tu es le Dieu de vérité, parfaite et glorieuse. Et nous te remercions, parce que c'est vrai que quiconque est de la vérité écoute ta voix. Et si ce soir il y a quelqu'un qui veut rejeter tout mensonge, quelqu'un qui veut rejeter toute tromperie, qui veut rejeter toute hypocrisie, qui veut rejeter tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans sa vie, eh bien, qui veut vraiment se tourner vers le Seigneur pour être délivré par lui, pour être sauvé par lui, eh bien, qu'il lève sa main, et que nous puissions encore demander au Seigneur qu'il accomplisse cette œuvre puissante, bénie et bénissante, Seigneur, dans les vies. Oh, louange à toi, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, c'est toi qui as dit que nous serions réellement libres si nous confions en toi. Et merci parce que tu le fais, Jésus. Merci parce que tu agis. Béni sois-tu pour la victoire qui est en toi. Béni sois-tu pour la pleine libération qui est en toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'œuvre magnifique que tu accomplis dans nos vies, pour qu'il n'y ait plus de ténèbres dans nos cœurs, mais pour que nous puissions marcher dans ta lumière, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, oh, tu visites encore. Tu visites et tu sauves encore, Seigneur, en ce jour. Tu bénis chacune et chacun de ces bien-aimés. Tu vois les désirs et les aspirations profondes qui sont dans chaque cœur, Seigneur. Et merci, mon Sauveur, parce que tu y réponds pleinement et parfaitement. Je te bénis, Seigneur, pour l'œuvre excellente et salutaire que tu opères en faveur de chacun. Dans ton grand et précieux nom, Jésus. Amen, Seigneur.